Star Wars en direct vous est présenté en collaboration avec Citlan.net, Mintinbox.net, StarWarsHolonet.com, PlanetStarWars.com, StarWarsUniverse.com, Star Wars Geeks Québec, le Space Trash Show, ainsi que Génération Star Wars et Science-Fiction.
Bonjour et bienvenue à Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars pour cette édition littérature qui sera consacrée à l'audiodrama Dooku Jedi Lost. Je suis Jean-François et pour discuter de l'audiodrama, je suis accompagné de Francis. Bonsoir Francis.
Salut Jean-François.
Alors Francis, quoi de neuf côté Star Wars ou Geek pour toi cette semaine?
Moi c'est relativement mollo dans le sens, à part peut-être je suis sur la lecture de la version française de Battlefront 2, l'escouade Inferno. Mais okay. Sinon, le reste de mon WhatsApp, ce serait vraiment du Star Wars en direct. C'est ma troisième émission en dedans d'une semaine.
Ouais.
Donc, c'est pas mal Star Wars en direct là, qui a pris mon temps geek et mon temps Star Wars dans les derniers jours.
Ouais, j'étais un peu comme toi, Star Wars en direct, c'est ça qui occupe tout mon temps depuis une semaine au moins. Là. À part ça, ouais, j'ai pas grand-chose côté Star Wars ou Geek, c'est assez tranquille ces temps-ci. J'espère pouvoir me rattraper un peu dans les lectures de bandes dessinées là, au cours des prochaines semaines, là, pendant les vacances. On rappelle nos plus récentes émissions, il y a eu le Star Wars édition spéciale numéro 35 où Julien, Francis et moi-même étions au Geek Culture de la Naudière pour discuter de l'impact Star Wars sur la culture populaire, ainsi que le Star Wars numéro 170 où Danny, Julien et Francis discutent de l'article du Vanity Fair sur le film Rise of Skywalker. On en profite pour rappeler que nous sommes toujours en période de recrutement au Québec et en Amérique du Nord, donc si vous êtes passionné de Star Wars et vous voulez en discuter avec nous, allez sur notre page StarWars.direct dans la section recrutement. Et en même temps, on aimerait mentionner que nous avons une petite boutique sur notre site web où vous pouvez vous commander des chandails ainsi que des tasses si vous êtes en Europe, donc la boutique est sur StarWars.direct, section boutique. Et on en profite pour remercier nos partenaires Mintinbox, Star Wars Holonet, Citlan.net, Planète Star Wars, Star Wars Universe, Star Wars Geeks Québec, Génération Star Wars et Science-Fiction, ainsi que Jeff et Kim, le Space Trash Show. Et bien, sur ce, on va en hyperespace.
Oh crap! Prepare to jump into hyperspace on my mark.
All right, stand by.
Alors, notre sujet aujourd'hui est l'audiodrama Dooku Jedi Lost qui est paru le 29 avril, si je me rappelle bien. Donc, Dooku Jedi Lost, qu'est-ce qu'il y a de particulier, c'est qu'il n'est pas disponible en livre, du moins pas encore. On a vu que Amazon a un listing pour la sortie physique du livre pour le 3 octobre, mais il n'y a pas eu d'annonce officielle encore. Donc, est-ce que le livre va vraiment paraître ou pas? On ne sait pas. On va peut-être sûrement avoir des nouvelles d'ici le Comic-Con de San Diego qui a lieu à la fin juillet. On sait que Lucasfilm a toujours un gros panel pour les livres, tout ce qui est côté littérature, Star Wars, donc livres, comics, au Comic-Con. Donc, on devrait avoir plus de nouvelles à cette période. Donc, Dooku Jedi Lost, je vais y aller avec le synopsis. Darth Taranis, comte de Sereno, leader séparatiste, un sabre rouge dégainé dans le noir. Mais qui était-il avant de devenir le bras droit des Sith? Tandis que Dooku brigue un nouvel apprenti, la vérité masquée au sujet du passé du seigneur Sith refait surface. La vie de Dooku a commencé par un privilège, celui d'être né dans son paisible domaine familial autour duquel gravite la lune funéraire où reposent les os de ses ancêtres. Mais rapidement, ses pouvoirs de Jedi sont détectés et le voilà amené loin de chez lui pour être formé aux voies de la Force par le légendaire Maître Yoda. Au fur et à mesure qu'il apprend à maîtriser son pouvoir, Dooku gravit les échelons, se lie d'amitié avec son camarade Jedi Sifo Dyas et prend à son tour un Padawan, le prometteur Qui-Gon Jinn, tout en essayant d'oublier la vie qu'il avait auparavant menée. Il éprouve néanmoins une étrange fascination pour le maître Jedi Lenny Costana, et pour la mission qu'elle entreprend pour le compte de l'Ordre. Trouver et étudier d'archaïques reliques Sith dans le but de préparer un éventuel retour de l'ennemi le plus meurtrier qu'aient connu les Jedi. Tiraillée entre sa vie de Jedi, ses devoirs envers son monde natal et l'alléchant pouvoir des reliques, Dooku lutte pour rester du côté lumineux, bien que les ténèbres commencent à l'envahir. Alors, je voudrais juste remercier Star Wars Universe qui a fait la traduction du synopsis. Donc, on a pris le synopsis sur leur site. Alors, Francis, si on y va avec nos critiques non spoilers de l'histoire, je vais te laisser commencer.
Effectivement, on va essayer de pas gâcher le punch, parce qu'il y a plusieurs punchs intéressants dans ce livre-là. Donc, on va essayer de laisser la surprise là, à ceux qui comptent le prendre en audiobook. Je préciserais que pour un... là, on dit audiobook, le terme, comme tu disais tantôt, audiorama est peut-être mieux choisi pour celui-là. Parce que, contrairement à un audiobook où est-ce qu'on a un narrateur des fois deux, là, c'est vraiment toute une équipe. Donc, on a un acteur, on va dire, là, qui fait la voix de chaque personnage. Donc, c'est quand même... déjà que les audiobooks de Star Wars sont reconnus pour leur qualité, avec toute la mise en scène, la musique, les effets spéciaux, etc. Ben là, en plus, on a vraiment une personne là, par personnage. Je sais plus si tu as mentionné l'auteur, mais bref, l'auteur c'est Kevin Scott. Sûr que ça leur dirait quelque chose dans le petit monde de Star Wars, c'est celui qui a écrit, parce que là c'est fini, la série Aventure dans un monde rebelle. Donc, en français, en anglais, je crois que c'était Aventure In the Wild Space, on en fait le même. Mais bref, une petite série là, plus jeunesse, en français, c'est sorti chez la Bibliothèque Verte. Donc, série quand même que j'ai commencé à lire et que je n'ai pas détesté. L'histoire de Jedi Lost, de Dooku Jedi Lost, se passe en moins 24. Donc, on est à l'époque de la République, bien avant l'épisode 1. Et comme je disais tantôt, c'est un audiorama. Ceux qui ont jamais pris audiobook, qui hésitaient ou qu'une affaire de 22 heures, mettons, ça leur faisait peur un peu, ça peut être la bonne occasion de vous y mettre parce que c'est seulement 6 heures. Donc, tu sais, c'est relativement rapide quand même. Ça s'écoute bien, un peu comme nos podcasts, au travail, dans l'autobus, etc. Donc, sinon, pour ce qui est de l'histoire, moi, je dirais que c'est vraiment un prologue ou un préquel, là, appelez ça comme vous voulez, assez évident à Master and Apprentice de Claude Jacques Gray, qui est sorti cet hiver aussi, peut-être quoi, quelques semaines seulement avant. Ça paraît vraiment, là, au fil de l'histoire, que les deux auteurs se sont concertés, tu sais, de façon sérieuse, là. Clairement, on a d'ailleurs... un personnage créé pour Master and Apprentice qui revient, celui-là se passe avant Master and Apprentice, mais il est quand même fait pour être écouté pour les gens qui ont lu Master and Apprentice et non l'inverse. Je dirais que Master and Apprentice après Jedi Lost, je sais pas, en tout cas faudrait que je le relise, mais j'ai l'impression qu'il y a pas des punchs, là, mais quelques petites tournures que j'interpréterais différemment. On aura l'occasion d'en parler dans l'émission qui sera consacrée vraiment à Master and Apprentice de Claudia Gray. Mais bref, c'est ça, les deux auteurs ont fait le travail de se mettre ensemble puis de parler de tout ça. Moi, je salue l'initiative, j'espère que ça va arriver à d'autres occasions. Je m'étais noté que ça couvre Dooku à partir de l'âge de 10 ans. Donc, jusqu'au moment où il quitte l'Ordre. Fait que, tu sais, ça couvre quand même une longue période. Mais on n'a pas... C'est vraiment l'enfance, là. Ça part plus, là, où, tu sais, fin de l'enfance, début de l'adolescence. Personnellement, le fait que ce soit un concept d'une équipe d'acteurs au lieu d'un seul narrateur, je dirais que c'est un franc succès, là. Moi, parce que j'ai vraiment apprécié. Par contre, je pense que tu vas être d'accord avec moi, Jeff, là-dessus, que les voix... Puis je dis les parce qu'il y a Dooku version plus jeune et Dooku adulte. Les voix de Dooku, c'est raté.
Ouais, puis ce qui est vraiment étrange, c'est que j'ai. Si je me rappelle, c'est dans la liste, là, c'est le même acteur qui fait Dooku dans la série Clone Wars.
Ah, écoute, je m'en serais pas douté. T'as peut-être raison, là, parce que honnêtement, ça n'a rien à voir avec la série. Là.
Ouais.
Ça n'a rien à voir avec la série. Écoute, on a un Dooku qui a pas d'accent british.
Oui, exactement.
Qui a aucune profondeur dans la voix. Là, c'est pas une voix grave. Je sais pas. Moi, il y a de quoi qui m'échappe là-dedans. Là. Peut-être qu'il pensait changer la voix à l'édition puis que ça n'a pas été fait. Je sais pas, là, mais. Bref, au moins sur la version papier, bon, on n'aura pas ce problème-là.
Non, c'est ça.
Sinon, sans tomber dans les spoilers encore une fois, je me demande s'il n'y a pas quelques petits liens dans cette œuvre-là avec l'épisode 9. Écoute, on va en parler plus en spoilers tantôt,
okay.
Mais il est question beaucoup de reliques Sith.
Mm-hmm.
Donc, l'épisode 9 s'annonce un peu pour... En tout cas, ça, les rumeurs veulent qu'on va peut-être jouer aussi dans les reliques Sith.
Ouais.
Et bon, encore une fois, je marche sur des œufs pour côté spoilers, mais côté relation de famille, c'est quand même très présent dans ce livre-là. Ça a une grosse incidence sur l'histoire.
Mm-hmm.
Donc, c'est ça. Je me demande s'il n'y a pas des petits liens là, en lien avec le... Par exemple, il est question d'un MacGuffin probablement là, dans l'épisode 9.
Ouais.
Donc, bref, qui sait, on verra. Moi, au global, personnellement, j'ai beaucoup aimé ce petit audiorama-là. Et pourtant, le pire, c'est que on se le cachera pas, vu que c'est Dooku. On sait que Dooku va virer au côté obscur, parce qu'on a vu les films et la série. Donc, je m'attendais à quelque chose de, tu sais, spirituel, puis beaucoup axé sur la force, etc. Et c'est le cas.
Mm-hmm.
Et pourtant, moi, je suis vraiment pas un fan de Star Wars, de la catégorie qui tripe sur l'aspect spirituel, qui veut toujours en savoir plus sur la force, sur les Sith, sur l'ordre Jedi, etc. Mais malgré ça, j'ai vraiment été surpris par cette œuvre-là à beaucoup d'égards, là, des rebondissements, entre autres, dans l'histoire, des choses comme ça. Puis tout ça, malgré un format réduit. Tu sais, quand on a un livre qui en audio prend 20 heures, bon, ben, ça en laisse de la place là, pour des rebondissements puis des surprises, des choses comme ça.
Mm-hmm.
Là, en 6 heures, honnêtement, je trouve que j'ai plus de contenu que dans beaucoup d'autres livres. Ben, beaucoup de contenu qui m'a bien intéressé. Évidemment, c'est une question d'intérêt. Fait que moi, je dirais que c'est un excellent divertissement. Et je le recommanderais là, vraiment à tous les fans de la période prélogique en particulier et... qui voudra en savoir plus sur Dooku, qui reste, en tout cas, surtout au niveau du canon, en légende, on avait un peu plus de contenu. Côté canon, c'était très limité ce qu'on avait comme contenu. Donc, tu sais, on avait le Dooku version série, là, Clone Wars, mais ça reste que c'était un Dooku qui était déjà dans le côté obscur et qui était en pleine guerre. T'sais, tandis que là, on a vraiment le avant, j'ai trouvé ça vraiment le fun. Moi, je vais lui donner ma note tout de suite, au pire, là, avant ta critique, Jeff.
Ah, vas-y.
Je lui ai donné un bon 18 sur 20.
Ouf.
Donc, un 90%. fait que, à ta réaction, j'en déduis que sur ce audiorama-là, on sera pas sur la même longueur d'onde.
Ah, effectivement, on sera pas sur la même... Eh, mais écoute, c'est ça qui fait les bons, des bons arguments, donc... OK, je vais y aller, premièrement, côté production. Parce que comme tu as mentionné, la production du livre est absolument incroyable. Ben c'est pas comme tu as dit, c'est pas comme c'est pas comme un audiobook. Hein, c'est vraiment un audiodrama. Juste pour donner ceux qui écoutent les audiobooks, la plupart des livres sont lus par Mark Thompson. Guy d'ailleurs dans le livre Dooku, je pense que c'est lui qui fait comme la narration générale. Donc on retrouve ce que j'ai trouvé cool, c'est qu'on retrouve les voix de la série Clone Wars pour Asajj Ventress qui est Orlai Cassidy, mm-hmm. et Ewan Morton pour Dooku. Pour ceux qui ne savaient pas, il y a Jonathan Davis qui fait la voix de Qui-Gon Jinn. Ceux qui ne savent pas c'est qui Jonathan Davis, c'est le chanteur de Korn, du groupe Metal Korn.
Ah ouais, tu me l'apprends.
Ouais, moi aussi, quand j'ai vu ça, j'ai fait comme, OK, attends, mais c'est-tu le même Jonathan Davis? Mais puis quand j'ai fait mes recherches, c'est exactement lui. Fait que j'ai été très surpris. Donc, c'est bon. Écoute, les effets sonores, la musique, ils ont vraiment mis le paquet. Puis j'ai aimé la longueur. Comme tu dis, habituellement, les audiobooks, c'est quoi, une quinzaine d'heures au moins à écouter? Tandis que lui, c'est vraiment que c'est à peu près 6h30. C'est simple, c'est court, puis tu sens que t'as rien manqué. Là. Tu sens que tu as été capable de vraiment tout raconter, ce qu'il voulait faire en dedans du temps qu'il y avait. Donc ça, j'ai trouvé ça vraiment hot. Côté histoire, bon, là c'est dur parce que je peux pas vraiment en parler sans aller vraiment dans les spoilers. Moi, l'histoire en général, j'étais correct avec. Moi, c'est des petites choses qui m'ont vraiment agacé. Comment je peux dire, je sais pas, c'est mon opinion, là. Il y a des choses que j'ai trouvées. Premièrement, ceux qui tenaient encore au livre Darth Plagueis, qui est pas canon, hein, qui est légende, ben, cette histoire-là a détruit complètement le Darth Plagueis. Fait que, ça, oubliez ça, là. Ça avait complètement enlevé ce que vous pensiez de Darth Plagueis, là. Ben, pas de Darth Plagueis, mais l'histoire de Darth Plagueis, que vous pensiez que ça faisait partie du vous espériez que ça fait partie du canon. C'est pas le cas. Ça détruit complètement Darth Plagueis. Ce qui est correct, je veux dire, c'est le nouveau canon, c'est un nouveau canon.
Ouais, c'est plus que. Au début, il y avait comme eu un espoir. Quand ils ont lancé le canon, il y avait un petit espoir qu'il allait peut-être canoniser Darth Plagueis.
Ouais, c'est ça.
Mais écoute, là, depuis le temps, c'est sûr que tôt ou tard, il allait faire des histoires sur la même période, là, puis tu sais, changer de thème.
Ouais, c'est ça. Puis il n'y a rien qui empêche qu'ils peuvent encore ramener des éléments de Dark Plagueis dans l'univers canon. Mais pour ce qui a trait là, de la relation Dooku-Palpatine, ça, c'est complètement changé. En parlant de Palpatine, sans rien dire, là, écoute, il est là, quoi, une minute à peu près, dans l'histoire?
Gros top, c'est ça.
Fait que, tu sais, je me serais peut-être attendu à ce qu'il joue un rôle un peu plus significatif. Surtout que le livre, c'est qu'on voit comment que Dooku commence à tourner du côté obscur de la Force. Donc, moi, je me serais attendu à ce que Palpatine ait un plus grand rôle à cet égard, ce qui n'est pas le cas. Une autre chose aussi, c'est que... Puis là, ça, malheureusement, je m'en vais dans les spoilers. Ok, je vais essayer de rien dire, mais...
Au pire, regarde ça pour tantôt.
Ouais, je pense que je vais y aller. Le reste, là, donc, ceux qui veulent avoir les spoilers, continuez. Ceux qui veulent pas les spoilers, je vais m'arrêter ici pour ça. Comme je dis, l'histoire, en général, elle est bonne. Elle est bonne. Moi, c'est des détails qui m'ont accroché, puis c'est ça qui fait descendre mon score. Moi, j'y donne un 11 sur 20. Du coup, c'est pour moi, c'est un des pas plus mauvais, mais des moins intéressants livres, les livres les moins intéressants que j'ai lus cette année, je dirais, ben, durant la dernière année. Pour moi, là, c'est le livre que j'ai le plus, pas détesté, c'est un mot quand même assez fort, là, que j'ai le moins aimé depuis Les Légendes de Luke Skywalker. Donc,
ouais, là, c'est ça. Ok. Écoute, ouais, Les Légendes de Luke Skywalker, rien de moins.
Ouais, c'est ça. Donc, c'est ça, c'est ma cote. On va aller dans le territoire spoilers. Donc, si vous ne voulez pas en savoir plus, arrêtez à ce moment-ci. C'est ça. Alors, vous pouvez écouter l'épisode une fois que vous aurez écouté le livre. L'audio-drama. Pour ceux qui sont toujours à l'écoute, donc on va aller dans le territoire spoilers et vous allez plus comprendre ce qui m'a agacé avec l'histoire du livre. Donc, Francis, si on y va avec des choses qu'on a remarquées, qui nous ont soit agacé ou soit
ouais,
que...
Ou l'inverse.
Ou l'inverse, hein, que tu as très aimé. J'ai quand même des choses que j'ai aimées que je vais mentionner aussi. Je te laisse lister ce que tu as, puis on peut en discuter là, ensemble.
Ouais, ça marche, ça. Arrête-moi là, le moindrement. Là, t'as un commentaire sur cette chose-là en particulier. Moi, je commencerai par mentionner Asajj Ventress. Mm-hmm. Tu l'as dit tantôt, on a droit à la même voix que dans la série. Mais je trouve que c'est plus que juste l'interprète qu'il faut souligner. Moi, j'ai trouvé qu'on avait vraiment la Asajj Ventress de la série.
Ouais,
dans le personnage, c'était elle.
Ouais.
Et là, l'histoire, maintenant qu'on est dans Spoilers, on peut dire que ça se passe justement. C'est une Asajj qui a encore certains doutes. qui encore, même qu'elle se, elle s'imagine même une voix dans sa tête, la voix de son ancien maître Jedi, mm-hmm. qui sert en quelque sorte de petit ange sur son épaule, là, ou de conscience. Donc, j'ai bien aimé ça, là, d'être dans la tête d'Assage, puis une Assage qui est pas complètement du côté obscur, tu sais, puis dans sa haine et compagnie, là, ses frustrations. Mm-hmm. Ça m'a rappelé un peu le livre Dark Disciple,
oui.
Sombre Disciple, mm-hmm. avec Assage, justement, puis je cherche le nom du Jedi qui était avec elle.
Quinlan Vos.
Quinlan Vos, exactement. Mm-hmm. Et bon, il y avait Dooku aussi, mais bref, on vendra pas le punch d'un autre livre.
Non, c'est ça.
Tout ça pour dire que ouais, j'ai beaucoup aimé le personnage d'Assage Ventress là-dedans. Faut dire, on l'a pas mentionné là, dans la partie non-spoilers, on va le dire là, c'est que le livre, c'est essentiellement Assage qui est sur une mission pour Dooku et elle tombe sur plein d'éléments de son passé. Donc, on découvre plein de choses du point de vue, ben, tu sais, c'est comme si elle disait, ou en tout cas tombait sur des archives de Dooku. Donc, c'est ça, on a l'interprétation à chaque fois d'Assage des événements. Donc, j'ai trouvé ça bien le fun parce qu'en plus, il y a énormément de parallèles entre elle et lui.
Ouais.
Par exemple, au niveau de leur parcours, des Jedi qui ont viré, leur raison de quitter l'ordre Jedi, leur glissement progressif là, vers le côté obscur. Moi j'ai noté la recanonisation du recrutement d'Assage par Dooku dans une fosse là, dans une arène de gladiateurs là, parce que Assage s'était fait capturer par des pirates.
Ouais.
Donc c'est exactement comme dans la série Légende en dessin animé là, de Clone Wars de 2003 je pense.
Ouais. Tarkovsky.
Ouais, c'est ça. Donc, c'est comme ça que ça se passait dans cette série-là, mais bon, c'était Légende maintenant. Fait que c'est toujours le fun là, quand des légendes redeviennent canon.
Ouais.
Sinon, après Assage, j'ai bien aimé aussi la partie, j'ai mentionné un petit peu tantôt, enfance ou adolescence à l'interne de l'Ordre Jedi. Pour Dooku, moi, ça m'a fait penser à Harry Potter... par bout.
Ouais,
on est dans les doutes des jeunes élèves. Là, ou des, parce que, comme tu l'as dit tantôt en synopsis, Dooku se tient beaucoup avec Sifo Dyas.
Mm-hmm.
Donc, ils font toutes sortes de plans, de mauvais coups, en tout cas, de petites aventures de jeunes. Comme dans Harry Potter, là, les doutes, les angoisses, les épreuves à surmonter, les compétitions,
ouais, c'est ça.
Les chambres secrètes,
ouais, c'est
les,
ça.
les règlements transgressés, etc.
Non, c'est, moi, tu vois que l'auteur est un fan d'Harry Potter.
Ouais, moi, ça m'a vraiment fait penser à ça. D'ailleurs, c'est ça, les deux jeunes garnements, on va dire, trouvent d'ailleurs une pièce secrète là, similaire à celle qu'on voit... ceux qui lisent les comics, ce qu'on voit dans la série comics Darth Vader de Charles Soule, donc pas la première de 2015, mais la deuxième de 2017,
ouais.
Une pièce qui regroupe une trolée de reliques Sith, dont le fameux masque, la mention là, du fameux masque de Momin,
ouais.
Un ancien Sith, Seigneur Sith, je suis pas sûr qu'on devrait dire Seigneur Sith, mais en tout cas, du côté obscur. Lequel a une très grande importance là, dans l'arc narratif dans Dark Vader, mais aussi dans Lando, Le Casse du siècle, un autre comics qui était sorti pas mal plus tôt, je pense en 2015.
Ouais, la première série de Lando. Là.
Ouais, exact, c'était Charles Soule aussi qui l'avait fait.
Ouais.
Mais bref, c'est ça, tu sais, quand je disais tantôt en première partie, le côté relique Sith, puis ce que ça permet de faire, ce que ça a comme impact, etc. Donc, moi, je me demande si, quand on va découvrir l'épisode 9 en décembre, si on va pas faire « Ah ouais, ok, il y avait tel détail, là, c'est vrai, ou quelque chose qui va être une nouveauté pour le grand écran. »
Ouais, la seule affaire, c'est qu'au grand écran, c'est pas tout le monde qui lit les livres puis qui regarde les BD ou les séries télévisées. Mm-hmm. Donc, je sais pas comment ça marcherait avec quelqu'un qui a jamais vu ou qui a jamais lu ces livres-là puis qu'il voit ces reliques sites.
Ouais, non, c'est ça. Faut que ça soit amené, justement, que ça soit pas juste les connaisseurs qui apprécient.
Ouais, c'est ça.
Mais je me dis, c'est ça. C'est le genre de petits détails que les connaisseurs vont juste faire ah, ok, oui, tu sais, on a déjà vu ça dans un livre ou dans Fait que, en tout cas, on verra.
Ouais.
Sinon, j'ai noté aussi, moi, ce que j'ai bien aimé, la corruption officielle dans l'ordre Jedi, là, mais tu sais, même jusqu'au sein du Conseil Jedi. Donc, une ancienne Seeker, donc on en apprend plus sur le département des Seekers, donc les kidnappeurs de bébés Jedi, là. si on peut dire. Bref, ceux qui vont trouver les bébés là, qui sont puissants dans la force, on va dire.
Ouais, c'est ça, ouais.
Et qui les ramènent au temple Jedi.
Ouais.
Pour faire un petit topo rapide, c'est qu'une de ces Seekers-là est une Jedi qui a transgressé une règle qu'on transgresserait aussi, moi pis toi, Jeff, là, si on était Jedi aussi, je pense, qui est celle d'avoir des enfants.
Mm-hmm.
Et bon, elle s'est cachée pour la grossesse et pour accoucher, et elle a ramené le bébé en disant que c'était le résultat de son travail. Autrement dit, elle a pas dit que c'était son enfant, elle a dit que c'était un des bébés là, dans la force qu'elle a découvert. Donc l'enfant a grandi tout et a toujours caché ça. Elle a fini par atteindre le niveau du Conseil Jedi. Et il y a des criminels, des mafieux de Coruscant qui ont découvert ça. Je me souviens pas comment ça se fait qu'eux l'ont découvert. Là. Je sais que c'était mentionné, mais c'est un détail qui m'a échappé.
Ouais.
Mais bref, ils la font chanter. Et c'est ça, elle a caché ça toute sa vie. Donc, puis là, le Flo est un padawan aussi. Dans le fond, elle, au lieu d'avouer le tout, mettons, à l'ordre, tu sais, au conseil, non, elle a perdure là, dans ses cacheteries. Puis ça a des incidences assez tragiques. Mais bref... tu vois que quand on entendait souvent les séparatistes ou les Sith, etc., parler de corruption aussi dans l'ordre Jedi ou qui ont perdu leur voix, tout ça, ben on en a un bon exemple.
Ouais.
Et pour la punir, il l'a envoyé aux archives là, travailler avec Joe Castanou. Mais bon, ça semble être la punition presque ultime. Mais en tout cas, un peu comme Ahsoka là, dans Clone Wars.
Hein.
Mais c'est ça, bref, puis ça dure des années, c'est toutes des Jedi, personne ne l'a senti, personne s'en est aperçu. Moi j'ai l'impression, la réflexion que je me suis faite en écoutant ça, je me suis dit que peut-être que l'Ordre Jedi aurait besoin d'un département d'enquête interne. je sais pas, je trouve que, en tout cas, c'est gros un peu, je trouve, mais ça nous donne un cas plus concret de corruption, tu sais, nette, là, tu sais, pas nécessairement à son profit pécunier, on va dire, mais, ouais. Tu sais, ça reste qu'elle collabore, là, tu sais, c'est une chevalier, ben, c'est pas juste une chevalier, c'est une maître Jedi, tu sais, elle aurait très bien pu, assumer ses responsabilités ou régler le problème des mafieux, ou bref, c'est ça. Ça justifie un petit peu plus le départ de Dooku de l'Ordre.
Ouais.
Mais c'est ça, je pense qu'on peut, tu sais, après l'écoute de cet audiorama là, je pense qu'on peut maintenant affirmer au niveau du canon là, clairement que Dooku n'était pas dans le côté obscur du tout quand il a quitté l'ordre. Donc tranquillement pas vite, il y avait eu de l'influence, de la découverte de plein de faits là, mais je pense pas qu'on peut dire qu'il était du côté obscur quand il a quitté l'ordre Jedi. Je pense qu'il était encore rempli de bonnes intentions au départ. T'sais, sa cause était juste. Et t'en as parlé tantôt, il rencontre le sénateur Palpatine.
Oui.
Mais c'est intéressant que toi, tu te disais que t'étais déçu, que tu te serais attendu à en avoir plus. Moi, au contraire, ça fait partie des choses que j'étais content, justement, que, bon, on le mentionne, il rencontre Palpatine, mais c'est tout ça n'est pas causé par Palpatine. Tu comprends, c'est pas une grosse manipulation de Palpatine depuis le début.
Ouais, c'est vrai. C'est vrai, hein?
Tu comprends, il est pas responsable des événements, contrairement à ce qui se passe dans toute la saga Skywalker.
Ouais.
Là, tu sais, c'est indépendant, puis il a vu quelqu'un qui pouvait être un allié, ou en tout cas un bon outil, puis il a sauté sur l'occasion, puis... ouais, c'est ça, j'ai trouvé ça, c'est l'inverse. J'étais quand même content là, que Palpatine ait pas un gros rôle dans l'histoire. Juste une petite mention... qui nous montre comment justement ils se sont rencontrés là, Je me suis noté aussi que c'est ça, on n'avait jamais eu vraiment sa perspective. Je l'ai mentionné un peu tantôt, mais dans Clone Wars on a un peu par bout la perspective de Dooku, mais jamais vraiment en profondeur. Je veux dire, par exemple quand Palpatine lui ordonne de tuer Ventress,
ouais.
tu sais, clairement, il est pas de bonne humeur, il est pas d'accord avec ça, mais il obéit. Mais tu sais, on n'avait jamais là, son point de vue de la situation. Puis comme je disais tantôt, dans la série, bon, ils sont en plein milieu de la guerre, puis il est vraiment basculé du côté obscur là, à plein. Tandis que là, c'est, tu sais, on n'est pas si éloigné de Qui-Gon Jinn ou de d'autres Jedi qui trouvaient que les dogmes de l'ordre Jedi abusaient un peu, là. Tu sais, puis je m'étais noté que c'est ça, l'état d'esprit de Dooku. Tu sais, parce qu'à un moment donné, il y a même des interventions au Sénat, en politique,
ouais.
Comme Jedi. Donc, tu sais, c'est ça, c'est un gars qui veut changer les choses,
mm-hmm.
qui veut faire une différence, améliorer le destin des gens, être un agent de changement. Puis il est dans une organisation que tu sais, comme toutes les vieilles organisations religieuses, je veux dire, l'ordre Jedi est conservateur, il est figé dans ses vieilles habitudes, ses certitudes.
Ses vieilles idéologies. Donc,
ouais, c'est ça, tu sais, puis je veux dire, on sait très bien les inspirations de tout ça, là, dans notre vrai monde vient d'où.
Ouais.
Donc, c'est clair que... moi, c'est ça, j'ai apprécié le fait que ce soit pas une histoire de Jedi corrompu par un Sith. Que ce soit une histoire de Jedi désabusé, ou en tout cas, tu sais, qui part pour X raisons, et que là, par après, on comprend qu'il va avoir le recrutement par le Sith, tu sais, puis l'influence.
Mm-hmm.
Mais que c'est ça, que ce soit indépendant, ça, j'ai bien apprécié. Ça fait changement, en fait, je trouve. Sinon, si ça avait encore été une histoire de Jedi patine, qui là. Se fait corrompre, je sais pas, ouais. Ça me aurait été du déjà vu. Je l'ai mentionné tantôt, il est ben chum avec Sifo Dyaz, donc le mystérieux Sifo Dyaz qu'on entendait parler dans les films, mais sans avoir aucun début de commencement de détails sur c'est qui ça, comment ça se fait, tu sais, d'où il sort.
Ouais.
Fait que les gens qui se plaignent que depuis la Disney, là, ils nous lancent plein de pistes sans nous donner d'explications. Je sais pas s'il était où à l'époque de la prélogie. Là, mais bref. Peut-être qu'il était pas là du tout.
Ouais, c'est ça.
Ça, c'est très, très possible. Mais bref, Sifo Dyaz, c'est ça. C'est l'ami d'enfance là, Jedi de Dooku. Donc, qui ont fait les 400 coups ensemble. On en apprend quand même pas mal. moi, ça m'a surpris à quel point. Là, on avait eu une petite apparition dans la série Clone Wars. Mais là, vraiment, on voit que Sifo Dyaz était... Comment dire... troublé,
ce serait peut-être ben, écoute, moi j'ai trouvé ça un peu weird, c'est troublé, ouais, par ses rêves, hein, c'est cauchemar, ouais, ouais,
ben c'est des visions de l'avenir, dans le fond,
là. Ouais, c'est comme ses visions de l'avenir, mais tiens, on dirait que, tu sais, ce qu'il fait pour ces visions-là, ce que je trouvais un peu bizarre, c'est comme, on dirait à cause qu'il est pas capable de rien faire, il se cache dans un coin, là, puis il bouge pas, là.
Il attend que ça passe.
Ouais, il attend que ça passe. Fait que c'est un peu cette impression-là que j'avais. On dirait...
Non, mais ça c'est comme la... C'est comme quand t'es malade au Québec, là, Jeff, là, avec l'impossibilité de voir un médecin, c'est ça. Là, tu te caches dans un coin, t'attends que ça passe.
Ouais, c'est...
Non, mais ils savent pas quoi faire avec, parce que sa maître, elle sait.
Ouais.
Si on l'a pas dit, mais sa maître, Jeff, parce que là, c'est un padawan. Donc, sa maître, elle sait qu'il y a ces problèmes-là, qu'il y a des visions, puis des éléments du côté obscur là, qui le perturbent, mais au lieu de le dénoncer, parce qu'elle a déjà vu ce que ça donnait de dénoncer ce genre de choses-là, elle sait comment ça finit. Je pense qu'ils sont envoyés dans une espèce de prison qu'on voyait aussi dans Clone Wars, là, qui s'appelle la Citadelle.
Ouais.
Puis... J'avais pas souvenir dans Clone Wars que c'était l'horreur à ce point-là, mais de la manière que c'est décrit là-dedans, c'est sûr que ça donne pas envie d'y aller. Donc, c'est ça, elle cache, donc elle ment au conseil là, au sujet des missions et compagnie, et elle fait des recherches pour essayer de l'aider. Puis ça va avoir un impact aussi sur l'histoire, puis sur Dooku, mais bref, je trouvais qu'il y avait un petit côté exorciste là-dedans, dans le rituel. Puis dans la recherche là, d'une solution, tu sais,
ouais.
De pauvre petit, là, tu sais, on veut essayer de l'aider, là, mais ouais. Il est possédé par le démon, tu sais. Sa tête tourne à 180, là, puis il se met à vomir vert partout.
Marche au plafond.
Bref, ouais, c'est ça. Pour rester dans Star Wars, bref, je m'attendais pas à un Sifo Dyaz aussi extrême que ça, là. Mais j'ai trouvé ça aussi, j'ai trouvé ça original. Tu sais, c'est ça, j'ai... c'est qu'il y a plein de points, c'est ça que je disais dans la partie post-spoiler, c'est qu'il y a plein d'éléments qui m'ont surpris dans un audio de 6 heures.
Ouais.
Alors que des fois, on passe 20 heures sans vraiment y trouver d'intérêt.
Ouais.
Fait que moi, c'est ça, j'ai beaucoup apprécié ça. Sinon, en rafale, on apprend aussi beaucoup sur... un petit peu sur Qui-Gon, qui est recruté justement par Dooku comme Padawan. Un peu sur Yoda aussi. Je te laisserai peut-être parler de l'influence de Yoda sur le destin de Dooku. Là.
Ouais.
Mais, ouais, c'est ça. Après, je vais te laisser parler de Yoda un peu.
Ben, juste avant de parler de Yoda, il y a juste une chose que je voulais revenir sur la maître de Sifo Dyas, dont j'ai oublié le nom. Là. Ce que moi, j'ai trouvé étrange de elle, c'est qu'elle dit à un moment donné que la force, c'est la moitié obscurité, moitié lumière. Tu peux pas avoir un sans l'autre. C'est comme le yin-yang, finalement. Ce qui est un peu étrange, parce que moi, de la façon dont je le voyais, c'est comme, OK, fait que t'es en train de me dire que tout doit être égal. Ça veut dire que tu devrais avoir autant de méchants que de bons. T'sais, la façon qu'elle en parle, c'était ça. Fait que ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est comme si tu étais un animal, devrait avoir autant de prédateurs que de proies. Ce qui n'a pas de sens. Right?
Ouais, dans un système. Je suis pas pro en biologie.
Mais ce que je veux dire, c'est que t'sais, elle, pour elle, c'est pas noir ou blanc, c'est gris.
Ouais. On est tout à fait dans la mode en ce moment sur parce que l'interprétation de la force, c'est ça, elle a changé depuis que Disney est aux commandes.
C'est ça.
Quand on pense au dernier Jedi, on pense aussi aux bizarreries dans la série Rebelle.
Ouais.
Avec le monde entre les mondes, puis ce genre de choses-là. On est beaucoup plus maintenant dans l'équilibre et moins dans un côté qui combat l'autre. Mais tu sais, elle, comme tu dis, c'est vraiment yin-yang. Sans clarté, il n'y a pas d'obscurité. Sans obscurité, il n'y a pas de clarté.
Ouais, c'est ça. Puis c'est ce que je trouve, dommage, c'est que ça donne comme un élément qui enlève l'effet ou la signification des films qu'on a vus, des deux premières trilogies. Tu sais, que le côté lumineux doit absolument vaincre le côté obscur, parce que c'est ça qu'on nous dit dans les deux premières trilogies.
C'est sûr que c'est son interprétation aussi.
Mais en tout cas, c'était juste ça que je voulais dire. Ça, c'est une chose qui m'avait accroché un peu sur la maître de Sifo Dyas. Ça explique aussi un peu pourquoi que lui il est un peu dans son monde de peur et tout. Là, si pour elle, c'est ça qu'elle lui enseigne, que inquiète-toi pas, tout ce qui est noir et blanc et tout ce qui est. Un mot sur c'était qui? T'avais mentionné Yoda. Ah, Qui-Gon, juste avant d'aller à Yoda. Une chose que j'ai trouvé bizarre, c'est que Dooku, quand il décide de quitter l'Ordre Jedi, il dit même pas à Qui-Gon.
J'avais pas remarqué, mais c'est vrai, effectivement. D'un autre côté, je trouve que ça fit quand même, par contre, avec sa personnalité.
Ouais.
Tu sais, c'est un salaud, là.
Ouais, c'est ça.
Ou, tu sais, en tout cas, parce que je veux dire, même dans son entraînement, que ce soit. Parce que on l'a pas mentionné, mais il y a un personnage qui revient du livre de Claudia Gray, Rael Averroes, qui est lui aussi un ancien disciple, on va dire, de Dooku, qui il a pas quitté l'ordre, mais il est comme affecté comme gouverneur d'une planète, un affaire la même.
Ouais, c'est un peu comme dans l'ancien univers légende, là, si tu... Je pense que c'est parce qu'il a pas réussi à passer... toutes les étapes, les épreuves Jedi. Dans l'univers légende, si tu passais pas les épreuves, tu étais en charge des fermes ou je sais pas trop quoi. Là. Je sais que c'était expliqué dans la série Jedi Apprentice, là, qui était la série pour jeunes adultes. Je sais que je remonte à loin, là. Ça remonte à 20 ans. Je sais pas si tu as lu cette série-là. Là.
Non, pas du tout.
C'était la série qui mettait en vedette Qui-Gon et Obi-Wan. Ça se passait comme 10 ans avant... l'épisode 1, la menace fantôme. Donc, ça expliquait que ça expliquait que les Jedi qui réussissaient pas à passer les épreuves pour devenir un maître, ou pas un maître, mais devenir un chevalier Jedi, à ce moment-là, ils étaient relocalisés, s'occuper de comme les fermes là, qui apportent tout ce qui est nourriture, tout ça pour les Jedi.
Mm-hmm.
Fait que c'est un peu ça, moi, le lien que ça a fait avec l'apprenti de Dooku, qui a un style un peu cowboy, hein?
Ouais, c'est le gars. Ouais. Tu sais, ça fit zéro avec Dooku.
Ouais,
c'est ça. Dooku est un maître, là, vraiment discipline, puis froid, tu sais, stoïque à fond, là, tu sais. Puis alors que, c'est ça, Rael Avera, c'est le blagueur, là, tu sais, le gars que t'as envie d'aller prendre une bière avec, là.
Ouais, c'est ça.
Puis, comme tu dis, style cowboy, il me semble que c'est mentionné, puis là, je pense que c'est mentionné dans les deux. Parce que comme je disais en intro tantôt, les deux auteurs se sont concertés, puis Kevin Scott a intégré le personnage que Claudia Gray avait inventé dans son histoire à lui.
Mm-hmm.
Mais bref, c'est un gars que les... tu sais, déjà que les Jedi, comment dire, sont... Ce côté apparence, puis côté matériel, tu sais, le linge, tout ça, ça les importe moyennement.
Ouais.
Mais là, lui, c'est le summum, là. Tu sais, il a l'air d'un pouilleux solide. Puis bon, dans Master and Apprentice, il dirige pratiquement la planète, là.
Ouais,
c'est un
ça.
Régent, là, dans une monarchie.
Ouais.
Donc, c'est sûr que le gars qui est habillé avec la chienne à Jacques, là, tu sais, je sais pas si c'est une expression que nos auditeurs français vont connaître, là, mais bref. C'est ça fait bizarre, mais... lui puis Qui-Gon échangent beaucoup sur justement le style de Dooku, tu sais, puis comment interpréter l'absence complète de d'empathie, on va dire,
ouais.
de Dooku
ouais, ouais.
avec ses élèves. Mais c'est pour ça que, comme pour revenir à ce que tu disais, le fait qu'il n'ait pas rien dit à Qui-Gon, bon, j'ai trouvé que ça m'a pas spécialement surpris, ça m'a pas marqué. Puis je fais encore un autre lien avec Master and Apprentice, mais sans tomber dans les spoilers, ben, il y a une bonne partie de l'arc narratif, en tout cas au moins le début, là, le premier tiers de Master and Apprentice qui tourne un peu autour de ça, sur est-ce que Qui-Gon va dire quelque chose d'important à Obi-Wan ou pas. Mais bref, ça sera dans une autre émission.
Ouais.
Mais c'est ça, c'est tellement lié ces deux histoires-là là, que... si vous prenez un, prenez l'autre. C'est, prenez les deux ensemble là, parce que vraiment, les connexions sont très 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 grandes.
Ouais, puis c'était un peu weird. À un moment donné, ce gars-là, il voit Palpatine, puis il l'appelle par son prénom, Sheev. Tu sais, il l'appelle Sheev, pas.
Ouais.
Pas de sénateur Palpatine ou rien de ça. Là, c'est.
Non,
hey, Sheev,
c'est ça.
What's up?
C'est ça. C'est le gars qui fait exprès pour. Moi, le décorum, je m'en fous. Pis,
ouais, c'est ça. Et il provoque, là, tu sais.
Ouais.
Donc, si on y va avec Yoda, j'ai deux choses à Yoda que je vais dire qui se contredit complètement. OK.
Mm-hmm.
La première, c'est que, donc, quand Dooku décide de quitter l'Ordre Jedi, c'est... la réaction de Yoda, j'ai trouvé qu'elle était un peu... pas bizarre, mais... on dirait qu'il... C'est pas grave. T'sais, pour lui, c'est pas grave. C'est comme, OK, c'est pas grave. Garde ton sabre laser. Tout est cool. Have fun.
Ouais, c'est vrai qu'on a une petite procédure, là, genre sitcom américaine policière là, qui remet son arme et son badge.
Ouais, c'est ça.
Mais c'est ça, quoi. Dooku veut lui remettre son sabre laser. Puis Yoda, il dit, non, le cristal t'a choisi. Donc, ton sabre appartient pas à l'ordre, etc.
Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, pour moi, là, tout ce qui est, tu sais, l'emphase qu'il y avait sur les vins perdus, là, qu'il y avait dans l'attaque des clones, pour moi, ça, c'est... Pff. Écoute, il y a Dooku aucune signification, là. Il y a aucune... Tu sais, ça n'a aucune signification pour Dooku, là, tu sais, dans mon sens, dans le sens que, tu sais, quand l'attaque des clones est sortie, puis que, tu sais, on avait lu la version livre de l'attaque des clones... puis qu'il parlait des vins perdus, puis que Dooku c'était tu sais pourquoi qu'il avait quitté, puis tout ça on sentait c'était comme dramatique là, c'était comme ah tu sais il y a juste 20 Jedi qui ont quitté l'ordre, Mais là, tu regardes la façon que Dooku est parti, puis c'est comme « Ouais, pas de problème. Ben, vas-y, mm-hmm. mon chum, on va se revoir, puis écoute, on s'invite à souper un jour, puis... Non, mais c'est ça.
Moi, sur cet aspect-là, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que... c'est ça, je voulais en parler après des vins perdus. Là. Parce que là, à cette époque-là, ça s'appelle pas les vins perdus.
Ouais.
Dans le fond, là, on en apprend pas mal. On apprend, entre autres, que... Il y en a vraiment un, parce qu'il y en a plusieurs qui sont partis pour aller diriger des affaires ailleurs, des choses comme ça. Mm-hmm. Il y en a vraiment un qui est parti, qui est devenu un seigneur Sith, puis qu'il a fallu que l'ordre le combatte. Mm-hmm. Par contre, de mémoire, il n'y a aucun des noms cités que c'est des personnages qu'on connaissait dans le canon ou même avant. Donc, c'est vraiment tout des noms inventés. Mm-hmm. Mais je suis d'accord avec toi, ça a plus l'importance, comme tu dis que ça avait... par contre, il faut se rappeler que le livre de l'épisode 2, tout ce qui est dans le livre qui n'est pas dans le film, est légende.
Non. Les livres sont considérés canon.
Non, ça c'est une erreur que plusieurs personnes font. Je te dis, t'iras vérifier ça, mais je la vois souvent passer cette erreur-là. Les livres sont effectivement canon, mais uniquement ce qu'il y a aussi dans les films. Donc, que ce soit l'épisode 2, que ce soit tout le contenu supplémentaire dans l'épisode 3, ben, je pense que c'est celui-là là, que le monde a vraiment trippé, là, celui de la Revanche des Sith.
Okay.
Mais c'est ça, tout ce qui est pas dans. Tout ce qui viendrait contredire le canon est pas considéré canon. Puis c'est pour ça aussi qu'il n'y a pas eu de réédition et compagnie. Fait que, mais c'est quelque chose là que effectivement, je vois passer ça une fois par deux mois, max, là, même plus souvent. Que les gens pensent que les livres, les adaptations en livre des films originaux sont canons, mais ils le sont dans la mesure où ils contredisent pas le film. Ou tu sais, ils contredisent pas autre chose du canon. Mais c'est vraiment, c'était l'ambiguïté là, qu'il y a eu en 2015 quand ils ont fait la séparation entre les légendes et le canon.
Mais l'extrait des vins perdus, là, c'était une scène inédite de l'attaque des clones aussi. Il me semble que c'était sur la version DVD que Obi-Wan en parle avec Joe Castanou.
Avec Joe Castanou, hein. Ouais, effectivement, devant la statue de Dooku, justement. Ouais. Ben, la statue, le buste
ouais.
de Dooku. Mais ouais, c'est ça, c'est la même chose, les scènes inédites. Ils sont pas canons non plus. Fait que malheureusement, parce qu'il y en a des très très bonnes, là, surtout dans l'épisode 3. Mais bref, pour revenir à Dooku Jedi, là, j'ai quand même apprécié d'en apprendre plus sur justement les vins perdus, qui s'appellent pas comme ça avant. Mais en même temps, j'ai quand même pas été surpris de la réaction à Yoda dans le sens que sans tout connaître. Parce que visiblement, Yoda est pas omnipotent, puis il sait pas non-stop là, tout ce qui se passe partout. Mm-hmm. Mais je pense qu'il est capable de lire que tu sais, essayer de garder Dooku, essayer de le punir d'une quelconque façon, ou tu sais, ce serait juste la pire des idées.
Ouais.
Fait que moi, je l'ai plus interprété comme garde, ok, séparation à l'amiable, tu sais, puis en espérant que ça devienne pas une mode. Mm-hmm. Mais ouais, c'est ça. Ça m'a pas choqué de ce côté-là, le comportement de Yoda. Mais je suis d'accord avec toi là, que ouais, ça vient alléger, on va dire, l'importance de ces fameux vins perdus.
Ouais.
Je m'étais noté une petite référence plus ou moins en fait vraiment pas très importante, mais. Je sais pas si t'as lu ou entendu le passage sur le dragon de Sereno.
Oui.
Parce que Dooku réveille une bête ancienne là, mythique, on va dire, là, ou ben, semi-mythique là, sur la planète. Donc, moi, je sais pas, tout de suite, là, ça m'a fait OK, c'est une autre bête de Zillow. Donc, ouais, la bête vrai, de Zillow. Dans la série de Clone Wars, qui était une bête là, qui résistait immense, que les clones avaient déclenché en faisant exploser une bombe expérimentale là, par-dessus les droïdes.
Mm-hmm.
Fait que c'est ça, une bête qui était enfouie, je pense, sous terre, puis que c'est ça, immense, puis qui résistait au sabre laser, etc. Fait qu'il y avait eu un arc de deux, au moins deux, peut-être trois épisodes là-dessus. Parce que là, la bête t'est ramenée à Coruscant et compagnie. Mm-hmm. Mais vraiment, le dragon, moi, ça m'a tout de suite fait penser à ça. Là. Je me suis dit, OK, je sais pas, il me semble que c'est... Il y a peut-être juste l'aspect qui... Je me souviens plus si dans l'audiorama, il résiste au sabre laser.
Je sais pas si tu te souviens. Non, je pense pas.
Pour déjà vérifier, là, mais bref, en tout cas, je pense que l'inspiration était vraiment là. Mais je mentionne que c'est pas du tout la même planète là. Dans Clone Wars, je me souviens plus c'est quoi le nom. Hein.
Non, mais c'est pas Serenaud.
C'est pas Serenaud du tout. Ouais. Il y avait bon un détail aussi le fait que le monde Serenaud avait ben, déjà que le nom de la planète, c'était le nom de famille de Dooku.
Oui.
Donc on apprend que la planète a été renommée selon le nom de la famille royale.
Ouais, puis ça fait des générations et des générations qui sont en charge. Là.
C'est ça, fait que et Dooku, bon, c'est ça, il est l'héritier, le fils du roi.
Mm-hmm.
C'est ça. Et la planète a déjà fait partie, on apprend, de l'Empire Sith
ouais.
À une autre époque.
Mm-hmm.
Donc, disons que le père de Dooku, on pourrait dire qu'il apprécie pas spécialement les Jedi.
Non, c'est ça.
c'est la version polie, là, la façon polie de le dire. C'est vraiment, là, il veut rien savoir d'eux autres. Dès qu'il a vu que Dooku avait des capacités, là, c'est lui qui est allé aux Jedi et non l'inverse.
Ouais.
Il n'a pas attendu que les Jedi viennent le chercher. C'est lui qui a fait la démarche de leur livrer.
Mm-hmm.
Il veut rien savoir de revoir son fils. Il veut couper les ponts absolument. Puis,
ouais.
Mais c'est ça, il y a tout l'aspect familial qu'on n'a pas tant abordé, mais il y a la sœur de Dooku qui a une grosse importance dans l'histoire.
Oui.
Parce que pendant toute sa jeunesse, Dooku réussit, tu sais, quand je disais tantôt qu'il viole quelques règlements là, de l'ordre Jedi, bon ben une des choses qu'il respecte pas, c'est le fait d'être en contact avec sa famille. Déjà, les Jedi sont pas censés connaître leur famille.
Mm-hmm.
Donc là, lui, non seulement par un hasard, du destin, il rencontre sa famille lors d'une visite éducative, on va dire.
Ouais.
Mais en plus, il garde le contact avec sa sœur pendant toute sa formation de Jedi. Donc, c'est sûr que ça l'attache émotionnellement là, à son ancien monde puis à son ancienne famille.
Mm-hmm.
Il y a son frère aussi qui est dans l'histoire, mais qui n'a pas un rôle énorme. C'est vraiment le père là, que... on pourrait dire un tyran, hein, ou en tout cas...
Ben, c'est comme Tywin Lannister, si vous écoutez Game of Thrones.
Ouais. C'est un bon... c'est pas mal ça, effectivement. Là, quelqu'un qui a une main de fer, puis tu sais, qui les privilèges, c'est normal. Puis ouais. Le petit peuple, là,
c'est ça
n'a aucune valeur. Là. C'est comme des droïdes ou des esclaves. Ou des. Mais c'est ça, j'ai trouvé ça drôle là, d'avoir le droit presque à une révolution anti-monarchique ou en tout cas ou un conflit syndical là, dans Star Wars. parce que c'est ça, maintenant, lors de la cérémonie funéraire de la mère de Dooku, je pense, si je ne me trompe pas, ou de la femme du roi,
ouais.
C'est ça, ça vire le petit peuple, vire ça à l'émeute quasiment.
Ouais.
Fait que le roi, en bon Tywin Lannister, fait venir l'armée puis tirer dans le tas.
Ouais, c'est ça.
Mais bon... Fait que non, tu vois, ça fait partie de plein d'éléments que je sais pas, je me semble que c'est pas du commun pour Star Wars. C'est toutes des choses que on a déjà vu dans d'autres livres, dans d'autres histoires, mais dans Star Wars, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup d'originalité quand même. Il y a la fin, si on. Je veux pas. J'hésite quasiment à vendre ce punch-là, dans le sens qu'on est dans la partie spoilers, mais je me dis c'est le spoilers parmi les spoilers. Mais il y a le fait que Dooku, à la fin. Parce que la mission de Asajj Ventress depuis le début, c'est de retrouver la sœur à Dooku pour l'éliminer.
Ouais.
Donc moi, tout le long, vu l'importance émotionnelle pour Dooku que sa sœur apprend au fil du récit, je me dis, bon, elle va la retrouver, mais tu sais, il va y avoir quelque chose, Dooku la tuera pas, ou tu sais, quelque chose comme ça.
Mm-hmm.
Mais non. Dooku élimine sa sœur.
Ouais.
Pour qui il a tout sacrifié, il a tout, il était prêt à sacrifier sa vie, puis l'ordre Jedi, etc., quelques années auparavant. Donc, je pense que c'était une façon pour l'auteur de nous montrer à quel point Dooku est sombré dans le côté obscur. C'est comme ça que je l'ai interprété, parce qu'à part ça, moi, ça m'a vraiment scié les jambes. Là.
Ouais,
je m'attendais à un rebondissement quelconque, là, puis finalement, non. C'est le Dooku de la série Clone Wars.
Ouais, c'est ça. C'est pour montrer qu'il est là juste pour lui-même. Puis, il est comme sa mission. Puis, il élimine tout ce qui pourrait le distraire. Mm-hmm. Puis, sa sœur étant un de ces obstacles-là. Ben, c'est un peu comme la façon qu'il élimine son frère. Il tue son frère parce que son frère s'est joué au pirate. Puis là, tu sais, il n'y a aucun remords ou quoi que ce soit. C'est comme, ah, OK, tu t'es joué au pirate, puis paf, je te dis. C'est ça.
Faut dire que son frère, il avait pas le même lien émotionnel là, qu'avec sa sœur.
Non, c'est ça.
Mais, ouais, c'est ça. C'est sûr qu'il y a un certain gap aussi. Là. Il y a un délai entre l'histoire du passé, on va dire, là, puis le moment de la mission d'Assage Ventress. Là. Fait que c'est sûr qu'il fallait qu'il y ait comme une cassure. Mm-hmm. Mais ça nous montre qu'effectivement, là, au moment où il était avec Assage Ventress, c'est le Dooku froid et sanguinaire qu'on connaît plus tard.
Ouais, c'est ça.
Fait que je sais pas si toi t'avais de quoi là, de ben, plus deux dans les spoilers.
Deux petites choses. Ouais. Un que j'ai trouvé drôle, puis encore une fois, ça, on en a parlé un peu plus tôt, mais ça montre à quel point que l'auteur était un fan de Harry Potter. On apprend que le Temple Jedi a été créé par 4 fondateurs.
Ouais, ouais.
Un peu comme Hogwarts. Je me souviens plus comment elle s'appelle, l'école d'Harry Potter en français. Là. Mm-hmm. Mais donc, c'est ça. Un peu donc il y avait dans Harry Potter, il y a les quatre maisons. Hein. C'est un peu la même chose là, pour le Temple Jedi. Fait que je suis trouvé...
Ouais, c'est vrai qu'on apprend que le nom des 4 tours...
Ouais, c'est ça.
Aussi, tu sais, les tours du temple, ouais. Là, c'est ça. C'est la première fois qu'on a droit à une définition, bref, une visite touristique du temple Jedi.
Ouais. Fait que ça, j'ai trouvé ça drôle parce que c'est vraiment un lien flagrant avec Harry Potter. L'autre chose que je voulais juste mentionner, une dernière chose sur Yoda, j'ai parlé de Yoda, de sa réaction. Mais une chose aussi que ça montre, c'est que ça l'aide à comprendre pourquoi que Yoda ne voulait pas que Anakin soit entraîné pour devenir Jedi. Dans le sens qu'il a vu comment que Dooku est devenu, puis que t'sais, c'est sa famille qui a fait qui a quitté l'ordre Jedi, puis que comment je peux dire, il a viré de bord hein, finalement. Donc tu sais. C'est un peu la même chose avec Anakin, puis Anakin CP, parce que lui, il est resté avec sa mère jusqu'à 10 ans. Donc, il y a encore un attachement encore plus profond avec sa mère que Dooku avait avec sa famille. Donc, tout ça fait que c'est pour ça que Yoda ne voulait pas au début, puisqu'il a changé d'idée, là, mais qu'au début, que Anakin soit entraîné. Fait que je trouvais que ça faisait un bon lien, ça expliquait un peu... pourquoi que tu sais il avait refusé d'entraîner Anakin vraiment là, de même tu sais ah ouais non t'es trop vieux tu sais quand Yoda il dit que tu sais on sait que tu penses à ta mère t'as peur pour elle puis tout ça
ouais.
Donc je trouvais que ça c'était un bon lien puis ça rajoute un peu plus de profondeur à cette scène là dans La Menace Fantôme
ouais c'est vrai
Non sinon à part ça t'as pas mal tout mentionné ce que j'avais moi aussi sur ma liste.
Toi, de ton côté, est-ce que t'avais lu ou écouté Master and Apprentice?
Je l'ai pas fini encore. Okay. Je sais pas pourquoi, j'ai de la difficulté à le terminer, j'ai de la difficulté à embarquer dedans. J'aurais peut-être pas fallu que j'arrête de lire pour me concentrer sur autre chose, parce que là, j'ai beaucoup de difficultés à revenir dedans.
De ce que tu en as lu, est-ce que tu conseillerais aux auditeurs de commencer par, en ordre chronologique, par Dooku Jedi Lost, ou d'y aller dans l'ordre de sortie?
Non, moi, je dirais de commencer par Dooku, parce que Dooku, tu vois que c'est un prequel de Master and Apprentice. Donc, c'est pour ça aussi qu'ils sont sortis... c'est quoi? Dooku est sorti quoi une semaine après que Master and Apprentice est paru? Une semaine ou deux. Donc, non, si vous avez le choix, commencez par Dooku, puis ensuite faites Master and Apprentice. Puis si vous écoutez pas les audiobooks ou audiodramas, ben attendez que la version livre soit parue pour Dooku avant de lire Master and Apprentice.
Ouais, effectivement, ben là, c'est vrai, on peut mentionner que Master and Apprentice sort en français cet automne. et que, bon, comme tu as dit, sur le site d'Amazon, c'est pas en français évidemment, mais en anglais, la version livre de cet audiorama-là est prévue.
Ouais.
Est-ce qu'il y aurait une possibilité de traduction en peu de temps après là, sur le planning 2020 de Pocket, qui sait? D'autant que c'est pas, ça sera pas un énorme comme livre, là, 6 heures, donc c'est sûr que ça sera pas 600 pages comme un Crown, là, ça risque plus d'être autour de 250-300 pages peut-être. Hein.
Mm-hmm.
Mais c'est ça, moi je vois ton point, effectivement, c'est clairement un préquel à Master and Apprentice, mais je conseillerais, c'est peut-être à cause de l'ordre dans lequel moi je l'ai pris, mais je conseillerais peut-être quand même de le prendre dans l'ordre de sortie plutôt que dans l'ordre chronologique. J'ai l'impression que j'ai plus apprécié certains aspects dans celui-là, entre autres Rael Averroes, et donc la relation aussi de Dooku avec Qui-Gon Jinn.
Mm-hmm.
Fait que c'est ça, ma vision était différente à cause de Master and Apprentice. Donc, mais évidemment, là, c'est un choix. C'est pareil comme par quelle trilogie de films commencer. Là.
Ouais, c'est ça, exactement.
Ça, c'est un débat qui aura jamais de vérité absolue.
Ouais.
Donc, fait que c'est ça. Écoutez, moi, comme j'ai mentionné tantôt, c'est un audiorama qui m'a quand même beaucoup plu. Moi, les points que je lui ai enlevés tantôt, c'est vraiment sur des petits détails, notamment là où les voix de Dooku que je ne comprends juste pas, surtout vu la qualité du reste de l'œuvre. Je ne comprends pas pourquoi on ne reconnaît pas au niveau audio la voix de Dooku. Ça n'a rien à voir avec les films ou la série télé.
Ah, puis surtout que c'est le même acteur qui fait la voix de la série Clone Wars. Mais il sonne pas du tout pareil comme dans Clone Wars.
Ouais, je sais pas ce qui s'est passé de ce côté-là. Mais bref, sinon, j'ai beaucoup aimé.
Mm-hmm.
Toi, un peu moins, Jeff.
Ouais.
Donc, mais je pense que les auditeurs ont une idée là, de ce qui de à quoi s'attendre avec nos critiques.
Ouais.
Ben, nos deux points de vue.
Ouais. Puis comme j'ai dit, là, même si j'ai moins aimé le livre, je conseille de le lire pareil parce que il y a des éléments qui sont vraiment super intéressants dans l'histoire. Comme tu as mentionné, là, le punch final, donc ça, c'est, on le dit, là. Mais tu sais, comme tu dis, on voit comment Dooku devient ce personnage froid, super sérieux, super concentré, qui est très discipliné, là. Qu'on voit dans Clone Wars puis dans les films, parce qu'au début du livre il est pas du tout comme ça. Donc ça c'est cool pour voir l'évolution du personnage, comment qui part d'un Jedi là, qui fait des mauvais coups, puis qu'il y a du fun à au temple Jedi, puis tout ça, il y a du fun à être un Jedi, à devenir ce personnage qui est 180 degrés.
Dernier très léger fun fact là, qu'on n'a pas mentionné, qui me repop là, dans mon esprit, c'est l'espèce de pas de sortilège, de procédure là, qu'ils font à trois pour combattre les problèmes de Sifo Dyas, et que pour faire la procédure, c'est le terme plus gouvernemental que spirituel.
Ah ouais.
Mais pour faire le petit manège, bref, faut qu'il ait les bras tout entourés là, de bandes.
Ouais.
Et j'ai trouvé que c'était une référence directe à Ray, qui a tout le temps les bras là, entourés de bandes. Mm. Et même chose pour Asajj Ventress. Et dans l'audiorama, on apprend aussi que Dooku, même, t'sais, une fois qu'il a appris cette procédure-là, ben pour le reste de son jeune temps, il y a apparemment tout le temps ces bandes-là après les bras pour rester focusé là, sur sa mission là, ou bref. Fait que j'ai trouvé ça drôle là, dans le sens que Ray en plus a aucune au départ, c'est une pieuse d'épave dans le désert là, donc
ouais,
je sais pas très bien où est-ce qu'elle aurait appris ça. Cette procédure-là.
Ouais.
Mais bref, Asajj Ventress, là, ça m'a rappelé, puis c'est ça, j'étais allé voir sur Internet qu'elle a tout le temps, c'est ça, ces espèces de bandes-là sur les avant-bras. Là.
OK.
C'est ça. C'était un très léger détail qui, je pense, était une référence de l'auteur, mais qui, qu'il n'y a pas un lien, là, que ça m'étonnerait qu'on réentende parler rapidement de ça.
Ouais, c'est comme un Easter egg. Là.
Ouais, c'est ça.
Ouais. Excellent. Ben, eh bien, c'est sur ce point que nous allons conclure l'émission. Donc, n'hésitez pas à nous laisser vos impressions, vos commentaires sur ce que nous venons de discuter par email à studio@starwars.direct. Vous pouvez aussi aller sur l'article de l'épisode sur notre site starwars.direct ou sur notre page Facebook, notre compte Twitter, Instagram et notre chaîne YouTube. Côté prochaine émission, on a plusieurs petites émissions qui sont en mode édition qui vont paraître dans les prochains jours, prochaines semaines. On peut aussi confirmer que nous allons être au Comic-Con de Montréal encore une fois cette année. Le Comic-Con qui se déroule du 5 au 7 juillet. L'horaire est paru cette semaine. Donc nous allons avoir un épisode live en direct du Comic-Con le dimanche 7 juillet à 13h45 dans la salle 511C. Donc, si vous allez au Comic-Con de Montréal et vous voulez faire partie de cet enregistrement live, je vous conseille d'être là un peu d'avance. L'année passée, on a dû refuser plusieurs personnes car la salle était comble. On rappelle que nous sommes toujours en période de recrutement au Québec et en Amérique du Nord. Donc, vous êtes fan de Star Wars, vous voulez en discuter avec nous, allez sur notre site starwars.direct, section recrutement. Et nous avons aussi une boutique où vous pouvez procurer t-shirts et tasses à starwars.direct, section boutique. On en profite pour remercier encore une fois nos partenaires à Minton Box, Star Wars Olonet, Cycla.net, Planet Star Wars Universe, Star Wars Geeks, Québec Génération, Star Wars et Science-Fiction, ainsi que Jeff et Kim, le Space Trash Show. Donc, de la part de Francis et moi-même, merci d'avoir été à l'écoute de Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars, et que la force soit avec vous.